Bonjour bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce, n'est-ce pas, de pouvoir le célébrer et le louer. Lorsque Matthieu a introduit ce culte ce matin, il a dit une parole. Il en a dit plusieurs, mais en tout cas, une des paroles qu'il a dites, c'est je ne sais pas comment vous êtes venu ce matin, si la semaine a été bonne ou moins bonne. Et moi, c'est vrai que cette semaine a été un peu chargée, je dois le dire, et que la fin de la semaine a été un peu particulière, en tout cas. Particulière par rapport à l'Église de Dieu. Je vois le progrès qu'il y a dans le monde, je vois comment le monde progresse, les évolutions. Est-ce que toutes les évolutions sont des progrès? J'en sais rien. Je ne suis pas toujours convaincu que tout ce qui est évolution est progrès. Mais en tout cas, dans le domaine de la médecine, dans le domaine des sciences sociales, dans bien de domaines, je vois que certaines évolutions sont des progrès parce qu'elles apportent un bien-être à l'humanité. Et je m'en réjouis fortement. Après, je me pose toujours la question, mais moi, Serge, en tant que chrétien, moi, Serge, en tant que pasteur, moi, Serge, en tant que membre de l'Église de Créteil, qu'est-ce que nous apportons à l'humanité? Qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que l'Église apporte à l'humanité? Et c'est vrai que j'ai des moments comme ça où des questions comme celles-là sont intensifiées dans ma réflexion. Et si je n'y prends garde parfois, ça peut plomber la foi chrétienne parce qu'on se dit, oula, une petite église comme Créteil, franchement, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'humanité? Et puis en préparant cette prédication de ce matin avec l'étude biblique que nous avons faite mardi, ce nouveau thème que je propose à l'Église de suivre, c'est vrai que ça change les perspectives, hein, ça change la façon de voir les choses. Et donc ce matin, j'aimerais que nous puissions commencer un début de réflexion. C'est vrai que je parle beaucoup depuis que nous faisons cette formation de l'importance de l'église locale. Je ne sais pas si vous avez perçu pourquoi j'insiste dessus depuis que je vous ai proposé de rentrer dans cette formation. Je pense que l'église doit réaliser plus que jamais son importance dans ces temps qui sont particuliers. Nous sortons d'une période, bref, nous ne sortons pas, mais nous sommes en train de sortir d'une période particulière. On espère pouvoir vraiment en sortir. Et la dynamique de l'Église dépendra de comment l'Église va réagir à la sortie, sinon pendant que nous sortons de cette période. Okay? Vous savez, quand il y a des grandes catastrophes, quand il y a des grandes difficultés mondiales, chacun a son refuge. Et plusieurs se sont réfugiés dans bien d'autres choses, mais on a vu que certains se sont réfugiés dans l'Église. Et maintenant que cette difficulté est en train de passer, ou plus ou moins en train de passer, et que certains vont avoir l'impression que finalement, ouais, l'Église n'a pas joué un grand rôle, et qu'en plus, dans l'actualité française, l'Église est épinglée de la façon la plus tragique qu'il puisse exister, parce que quand on parle de cette actualité, on dit l'Église de France, hein, on ne fait pas la distinction entre les différents pôles d'Église, même si quelquefois on rajoute hein, l'Église un tel, mais l'Église est épinglée de la mauvaise façon. On parle de ce scandale qui a eu lieu au cœur de cette église depuis plus de 70 ans, avec des centaines de milliers de personnes. Et si l'église ne réalise pas ce qu'elle est, si chaque chrétien ne réalise pas ce qu'il est, le flambeau que nous sommes risque d'être mis sous le boisseau. Hein. Jésus dit, est-ce qu'on allume une lumière pour la mettre sous un seau? Est-ce qu'une ville qui est sur une montagne, peut-on la cacher? Il pose ces questions réflectives pour que l'Église puisse se rendre compte qu'il peut arriver des situations où malheureusement, l'Église peut ne pas être audible. Ou bien l'Église peut, à cause de sa mise en cause, de sa petitesse, de l'impression qu'elle a de ne pas avoir un impact, peut-être elle-même fade, triste, rabougrie, renfermée. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. À mon sens, en tout cas. Et donc, je vous propose de faire ce parcours avec cette nouvelle étude que nous allons aborder tout le long de cette année. Et j'ai commencé mardi dernier à parler de l'Épître aux Thessaloniciens, et c'est sur celle-là que nous allons nous arrêter aujourd'hui et pour la suite de nos études ensemble les mardis et quand nous allons reprendre aussi les formations de dimanche. Tu peux, voilà, c'est ça, très bien. Je vous invite à faire quelques lectures dans trois passages dans les deux épîtres aux Thessaloniciens. Je vais inviter une fois de plus Dylan à venir lire avec nous. Je vais beaucoup l'associer à mes lectures pendant mes prédications. Tu veux venir, Dylan, s'il te plaît? Je pense que c'est mieux que tu viennes.
En ce qui nous concerne, chers frères, étant séparés de vous pour un temps, de corps mais non de cœur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous avons le vif désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, je l'ai tenté à une et même deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. N'êtes-vous pas en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Oui, c'est vous qui êtes notre fierté et notre joie. Donc après 1 Thessaloniciens, donc 3, versets 1 et 5. Donc c'est pourquoi nous avons pu supporter d'attendre davantage et nous avons préféré rester seuls à Athènes. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui collabore avec nous au service de Dieu, dans l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager, pardon, dans votre foi, afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses, et c'est ce qui est arrivé, vous le savez bien. Ainsi, nous pouvons supporter d'attendre davantage. J'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas trop vite ébranler dans votre bon sens, ni alarmé par un message inspiré, par une parole ou par une lettre venant prétendument de nous, comme quoi le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle la personnification du mal, celui qui est voué à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et à se présenter lui-même comme Dieu. Quant à nous, frères aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi comme prémisse pour le salut, dans la consécration de l'esprit et dans la foi de la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par une autre bonne nouvelle, pour que vous acquériez donc la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez ferme et restez attachés aux traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce un encouragement éternel et une bonne espérance, vous encourage et vous affermisse en toute œuvre bonne, comme en toute bonne parole. Amen.
Merci. Voilà donc quatre textes qui nous sont proposés ce matin, que je vous propose dans la première leçon de ce livret, que si vous le désirez, on pourra aussi commander pour travailler ensemble. Le thème de ce matin, c'est l'importance d'établir une église. L'importance d'établir une église. On voit que quand Dieu donne cette parole à l'apôtre Paul, l'église de Thessalonique était une très jeune église, qu'il avait à cœur d'affermir, qu'il avait à cœur de fortifier. Et donc, quand l'apôtre Paul écrivait ses lettres à cette jeune église, Et on le voit dans toute l'ampleur de ces textes que je vous ai lus, il avait ce cœur attaché à cette Église pour qu'elle soit solidement ancrée dans le message de l'Évangile. En ce qui nous concerne, et c'est le premier texte qu'on a lu, 1 Thessaloniciens 2:16, en ce qui nous concerne, chers frères, étant séparés de vous pour un temps de corps, de corps, mais non de cœur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous avions le vif désir, C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, je l'ai tenté à une et même à deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Ce désir qu'avait l'apôtre Paul de communier avec ses frères de Thessalonique n'est pas juste un désir parce qu'il était apôtre, parce qu'il était serviteur de Dieu. Il commence par dire, il ne dit pas à mes fidèles qui sont à Thessalonique, il dit mes frères, parce que c'était ses frères dans le Seigneur. Le concept de l'affermissement. Affermi, vas-y sur la diapo d'après s'il te plaît. Sur la page d'après, voilà. Affermir. Quand on regarde l'origine de ce mot dans la version grecque, on pourrait aussi le traduire par fortifier, établir, et aussi affermir. Hein? Fortifier quelque chose, si vous avez déjà vu des fortifications, donc quand on fait des visites souvent des monuments, on voit qu'il y a des grandes murailles autour des anciennes villes, et ça s'appelle des fortifications. Hein. C'était une façon de protéger la ville. Donc l'idée de fortifier, rendre quelqu'un solide. Hein. L'idée d'établir, c'est asseoir quelqu'un solidement. Hein. Asseoir quelque chose de façon durable. Hein. L'idée d'affermir, c'est rendre plus ferme, hein, rendre plus solide. Et on voit qu'au cours de tous ces voyages, quand l'apôtre Paul évangélisait et que les gens comprenaient l'évangile et qu'ils tournaient leur cœur à Dieu, ils ne les abandonnaient pas, ils ne disaient pas, voilà, si fait, maintenant vous avez l'évangile, le Saint-Esprit va vous fortifier tout seul. Non, il avait à cœur de revenir dans ces communautés pour faire en sorte qu'ils soient capables non seulement d'être connectés à Dieu, mais d'être capables eux-mêmes d'avoir les ressources pour méditer et comprendre la parole de Dieu. Parce que de toutes les façons, lui, il allait partir. Il n'allait pas rester sur ces églises-là. Mais la parole allait rester. L'écriture serait là. Donc il prenait le temps de faire ce travail. On voit cela dans les voyages de l'apôtre Paul. Et quand il prend avec lui ce jeune serviteur Timothée, et c'est un peu pour ça que ces temps-ci, j'invite Dylan aussi à venir lire avec moi, parce que nos jeunes doivent être associés à l'évangile de Jésus-Christ. Parfois, on attend un certain nombre d'indices avant de les associer. Je pense qu'on ne fait pas toujours œuvre utile en faisant cela. Si nos jeunes sont à l'évangile et que nous avons la conviction avec l'engagement au baptême, qu'ils ont un engagement avec le Seigneur, je pense qu'on peut être encouragé à les solliciter à servir Dieu. À les solliciter. Ça peut passer par une lecture tous les dimanches de la parole de Dieu. Ça peut passer par bien d'autres sujets. Et Paul a discerné, tu peux remonter un peu plus. Il a discerné ce jeune qui s'appelait Timothée lors d'un de ses voyages. Il a eu un témoignage de ce Timothée qui n'était pas un serviteur de Dieu. C'était un jeune qui avait un bon témoignage dans sa communauté. Et il a désiré l'associer avec lui. Et quand il a associé Timothée à son travail, ils ont fait le même travail. Affermir les églises locales. Affermir les églises locales. Combien de fois Paul n'a pas envoyé Timothée dans des églises pour qu'il fasse un travail d'affermissement, hein? Et on l'a vu dans la deuxième lecture qu'on a faite dans 1 Thessaloniciens 3, n'est-ce pas? Il dit, c'est pourquoi nous n'avons plus supporté d'attendre davantage et nous avons préféré rester seuls à Athènes. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui collabore avec nous au service de Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle de Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Il n'a pas dit, ah, Timothée, c'est un petit jeune. Non. Il dit, Timothée, il est associé à moi. Timothée a été affermi ensemble dans l'équipe que j'ai faite de mission. Et Timothée est capable d'affermir d'autres personnes. Il dit, moi, je suis empêché. J'ai essayé à deux reprises, je n'ai pas pu. Mais qu'à cela ne tienne, je ne suis pas indispensable. Ah, tiens, il y a Timothée. Il peut aller faire ce travail-là. Il dit, je vous envoie Timothée pour qu'il vienne là-bas et qu'il vous affermisse, qu'il vous encourage. Moi, je trouve là que parfois, dans l'Église, on se restreint avec les ressources que Dieu nous donne. Tout enfant de Dieu né de nouveau, qui a fait la paix avec Dieu et qui essaie de grandir avec son Dieu et qui du reste s'inscrit comme ce que nous avons fait depuis quelques années dans les formations de l'Église, dans les études bibliques de l'Église, est capable d'affermir d'autres, d'encourager d'autres. Et nous sommes dans le besoin dans notre communauté que plusieurs se lèvent pour aider à l'affermissement, que ce soit des enfants de l'autre côté, donc à l'école du dimanche, que ce soit au groupe de jeunes, avec les jeunes que nous suivons, que ce soit parmi les femmes, que ce soit parmi les hommes, nous voulons, au travers de cette thématique, l'important de l'église locale, l'important d'établir une église, l'établissement d'une église passe par des hommes et des femmes eux-mêmes établis qui sont capables de s'engager pour établir d'autres. Vas-y. Dans la page d'après, voilà, encore, voilà, c'est bon. Le concept, descend juste un peu, voilà, le concept d'affermissement dans les lettres aux Thessaloniciens. Dans les lettres de Paul aux Thessaloniciens, nous voyons clairement combien il était important pour Paul d'affermir les nouvelles églises qu'il avait fondées suite à sa proclamation de l'évangile. Paul utilisait le même mot affermi de la famille de Stériso, hein, c'est le mot grec, dans 1 et 2 Thessaloniciens. Et on voit que la première utilisation du mot se trouve dans 1 Thessaloniciens 3, verset 2, et c'est ce que je vous ai lu là, quand il parle, j'ai envoyé Timothée pour que Timothée vous affermisse. Okay? Et on voit ça dans ce passage. Après avoir pris connaissance du rapport de Timothée sur leurs conditions, Paul voulait visiter cette église lui-même. Il a cependant préféré envoyer la première lettre par Timothée pour les affermir et les encourager dans la foi. Ce mot est aussi utilisé à la fin de cette partie, donc 1 Thessaloniciens 3, verset 13, que nous avons aussi lu. Quant à nous, frères aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu a choisi comme prémisse pour le salut dans la consécration et l'esprit, dans la foi et dans la vérité. 1 Thessaloniciens 3, 13. Où Paul prie pour que leur cœur soit affermi. Le mot apparaît encore en 2 Thessaloniciens 3, 3. Paul exprime son inquiétude pour leur stabilité à cause de ceux qui les dérangeaient et les dirigeaient dans une autre direction. Il exprime sa confiance en Dieu qui les rendra forts, qui les rendra affermis. Paul sait qu'il est très important pour cette nouvelle église d'être fermement enracinée et affermie dans la foi. Il sait qu'il y a des gens qui veulent ébranler ses croyants dans leur nouvelle foi et détruire l'église. Ce n'est pas nouveau que l'ennemi de la foi cherche à détruire l'Église. Ce n'est pas nouveau que la pression du monde sans Dieu cherche à reléguer l'Église au fond de nos préoccupations. Ce n'est pas nouveau que nous-mêmes, à cause de tout ce que nous pouvons vivre dans le monde, à cause de tout ce développement humain qui veut se faire sans Dieu, à cause de certaines valeurs qui sont des valeurs anti-Dieu, il n'est pas nouveau que les chrétiens se sentent oppressés, opprimés, écrasé, tout petit, insignifiant, et que l'Église elle-même se dise, oh, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde? Et Paul dit, devant toutes ces nouvelles que j'ai reçues de Thessalonique, n'ayant plus supporté d'attendre, parce que je n'avais pas de bonnes nouvelles, puisque je savais que vous traversez des moments difficiles, je vous écris cette lettre de 1 Thessaloniciens, mais je vous envoie aussi Timothée, qui va vous porter cette lettre. Et cette lettre va être déjà un encouragement, mais lui aussi, par le travail qu'il va faire au milieu de vous, il va vous affermir, il va vous fortifier, il va vous encourager, n'est-ce pas? Pour que aucun de vous ne vacille dans la détresse que vous traversez. Pour qu'aucun de vous ne soit ébranlé par les épreuves, les situations que vous vivez. Et je prie Dieu, que Dieu nous aide bien aimés. À continuer de nous affermir. On n'a pas cessé de grandir dans la foi chrétienne. Celui qui a cessé de grandir, il s'est mis en danger. Celui qui cesse de grandir dans la foi chrétienne se met en danger. Parce que nous sommes appelés à faire quoi ? À maturer à la statue parfaite de Christ. Et ça, c'est un travail jusqu'à ce que Jésus nous rappelle à lui. C'est un travail constant, régulier, pour aller vers cette statue, vers cette maturité-là. Et nous avons besoin de travailler dans ce sens-là. Certainement, il y a quelqu'un sur YouTube, sur Zoom qui a ouvert son micro. Il faut voir pour le fermer, peut-être. C'est ça, quelquefois, les inconvénients du direct aussi sur Zoom. Fortifier, établir, affermir, c'est important, bien-aimé. Et à ce stade, peut-être la question qui est celle que je me suis posée, dont je vous ai parlé en introduction, que je vous pose maintenant, voilà, comment vivez-vous ce processus d'être affermi? Mon frère, ma soeur, penses-tu que tu as fini d'être affermi? Penses-tu que tu es arrivé au bout du bout du bout du bout? Je pense que la réponse est non. Si c'est non, continue de t'affermir. Et l'église de Créteil essaie de mettre chaque année un certain nombre de cursus, un certain nombre d'études bibliques pour justement encourager chacun de nous à sa famille. Je peux avouer, mais je peux comprendre aussi les diverses raisons qui font que les frères ne sont pas assidus. Mais en même temps, le Covid, la période 2020 m'a montré que parfois nos arguments ne tiennent pas. Parce que pendant le Covid, on avait plus de connexions qu'en présentiel. Ouais, vous me direz, oui, mais on était tous arrêtés, on faisait rien. Peut-être. Mais ça nous a montré qu'on peut quand même s'arrêter de temps en temps pour s'édifier, pour se fortifier. J'avoue parfois, je ne sais pas s'il faut dire ma tristesse, parce que si je dis je suis triste, c'est comme si je jugeais ceux qui ne viennent pas, et je ne veux pas juger les frères qui ne viennent pas. Mais j'avoue que nous avons le privilège pour l'instant d'avoir une salle de culte à notre disposition, où nous organisons librement nos rencontres, et que le mardi nous avons aussi cette salle. Et que malheureusement, si on est beaucoup, on est peut-être que 10 les mardis. Alors que notre communauté, c'est au moins 50 adultes dans notre communauté, au moins 50 adultes. Si on met les enfants, on va jusqu'à 70. Pourquoi cet espace qui nous est donné, avec autant de liberté, nous ne l'investissons pas? Et même si on ne vient pas tous les mardis, mais je réalise aussi, si je fais une moyenne, que même si je disais je prends un mardi par mois, c'est presque pareil. Je nous encourage, bien-aimés. Les mardis, c'est nous, Église de Créteil, qui avons dit ce jour-là, nous voulons le dédier à un culte du soir pour permettre au cours de la semaine que le chrétien ait une autre opportunité de s'affermir, mais qu'il puisse aussi avoir une autre opportunité d'affermir d'autres chrétiens, parce que nous venons prier pour que Dieu affermisse d'autres chrétiens. Et en plus, le Covid nous a montré qu'on peut faire aussi en distanciel et que ça vaut pareil, parce que prier à distance, ça a aussi la même valeur que si on était en présentiel. Donc si on ne peut pas se déplacer, on peut au moins se connecter. Je ferme ma parenthèse. Mais l'apôtre Paul avait à cœur, par rapport aux Thessaloniciens, d'être là présent, d'être avec eux, de vivre quelque chose de fort. Il envoie Timothée, il encourage cette église à rester ensemble, à s'affermir ensemble, à se fortifier ensemble. On voit qu'il y a la notion de fortification biblique, mais il y a la notion aussi d'affermir dans la communion fraternelle. Il aurait pu juste dire, je vous ai donné des instructions, vous n'avez qu'à les suivre. Il dit non, il dit, je veux moi-même venir vous voir. À deux reprises, c'était tellement important qu'il dit, Satan m'en a empêché. Mais je ne suis pas resté sur cet empêchement. J'ai trouvé la solution. Timothée va y aller. Tu peux descendre, s'il te plaît. Le processus de l'établissement de l'église à Thessalonique et ce que Dieu fait avec Paul à Thessalonique, que nous avons dans les deux épîtres aux Thessaloniciens, c'est pareil pour l'église locale de Créteil. parce que cette église était une église locale de Thessalonique. Donc on peut l'adapter à notre église. Et c'est ça qui est intéressant dans la parole. Dieu donne des choses qui sont contextuelles, mais qui traversent le temps, qui traversent les époques et qui sont aussi actuelles pour l'église d'aujourd'hui et pour l'église de demain jusqu'à ce que Christ vienne chercher son église. Paul avait un processus, une procédure que Dieu lui avait donnée, dont il parle beaucoup dans l'Épître aux Éphésiens, et qu'il matérialise quand on lit le livre des Actes, et qu'il a encore redit là, dans l'Épître aux Thessaloniciens, fonder la communauté. Vous savez, une communauté, ce n'est pas une secte. Hein. Le mot communauté est un mot péjoratif aujourd'hui, mais une communauté, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui veut vivre quelque chose de fort et apporter quelque chose à leur communauté, à la société tout entière. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes une communauté, un groupe de croyants, de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, de ceux qui ont reconnu leur péché et qui ont reconnu que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas atteindre à Dieu, que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire le bien selon Dieu, qu'ils ont besoin du secours de Dieu, de la présence de Jésus-Christ pour faire le bien selon Dieu. C'est ça le croyant, c'est ça la croyante. Nous sommes une communauté de gens qui ont compris notre état et qui avons remis notre sort entre les mains de Dieu en Jésus-Christ, pour qu'il nous rende meilleurs selon l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, quand ces personnes ont cru, leur conversion était renforcée par l'instruction. L'une des choses dans lesquelles le conseil de cette église et moi, nous nous sommes engagés, c'est vraiment de nous investir dans la foi de nos jeunes avec le cours de croissance. Les instruire, c'est important. Mais c'est un cours qui est ouvert aussi aux adultes. Hein, et c'est pour ça que pour les adultes, on a mis les études bibliques de mardi. Et avant le Covid, on faisait aussi des publics une fois les dimanches après le culte. On a réunion de conseil ce vendredi. On va voir si on relance cette étude biblique après le culte. Mais il me semble que c'est important pour nous affermir. Et je dois dire que cette étude biblique avait quand même du succès parce que plusieurs d'entre vous restaient après le culte pour participer à cette étude biblique. Donc c'était un espace qui semble plus adéquat parce que vous étiez déjà là et que vous étiez intéressé à y participer. Donc, renforcer l'instruction rigoureuse. Vous savez, l'instruction peut être pêle-mêle, on peut avoir son temps de méditation qui est utile, on peut de temps en temps se souvenir qu'il faut s'affermir, mais si on n'a pas un cursus, si on n'a pas une guide, si on n'a pas une discipline rigoureuse, moi je suis reconnaissant à l'Église parce que cette discipline, l'Église me l'a donnée. J'ai aimé l'Église très tôt parce que je savais que j'étais quelqu'un de très libre en tant qu'étudiant, mais de me discipliner pour être à l'Église, ça me donnait une discipline moi-même parce que au moins je savais... à l'époque c'était le jeudi dans cette église, au moins je savais que les jeudis pendant la semaine j'avais ce temps à l'église et je faisais tout pour y être parce que ça me fortifiait aussi. Et les dimanches, moi les dimanches en tout cas Dieu m'a aidé, je crois que c'est une grâce, j'ai jamais pris les dimanches comme une option. Pour moi les dimanches ça faisait partie de mon calendrier hebdomadaire, okay? Parce que très tôt certains aînés m'ont convaincu et je leur suis reconnaissant. Ils m'ont dit, mais est-ce que quand tu n'es pas malade, tu ne vas pas à l'université? J'ai dit, oui, je vais à l'université tant que je ne suis pas malade, je suis tous les jours au cours. Ils disent, pourquoi? Je dis, parce que je veux réussir ma vie et que je veux avoir mon diplôme et que je veux travailler demain. Il dit, alors, mais pourquoi pour l'église tu choisis? Alors que l'église va t'aider à réussir ta vie éternelle. Alors pourquoi pour l'église tu peux dire ce dimanche je ne suis pas à l'église alors que tu n'es pas malade? Alors que tu n'as pas une préoccupation particulière. Alors que même quelquefois, cette préoccupation, tu peux la faire après le culte. Pourquoi ce temps de culte qui est une seule fois par semaine, alors que le temps d'étude, c'est 5 jours sur 7. Et 5 jours sur 7, tu es à l'école, tu es à la fac, mais le seul jour où tu dois être à l'église, tu choisis de faire autre chose. Très tôt, ça m'a impacté. Très tôt, ça m'a dit quelque chose de fort. Et quand je suis rentré dans le monde du travail, ces aînés ont dit la même chose, mais d'une autre façon. Il dit, qui de vous, le lundi matin, dit, oh, je suis fatigué aujourd'hui, je ne vais pas travailler. C'est pas comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si tu fais ça, bah, la suite, tu la connais, hein, au niveau professionnel. La suite, tu la connais. Tu la connais non seulement au niveau professionnel, mais tu la connais aussi au niveau pécunier, n'est-ce pas? Et donc, on a cette façon de nous obliger, mais volontairement, hein, c'est une obligation volontaire, aller au travail, et on fait l'effort d'y être. Même quelquefois quand on est malade, quand on n'a pas un arrêt maladie, on ne peut pas rester à la maison, on y va quand même. Mais pour les choses de Dieu parfois, et je ne veux pas nous culpabiliser, je veux simplement que nous puissions réfléchir à l'importance de l'église dans le plan de Dieu, à l'importance de l'Église. Et on a bien étudié que l'Église, en fait, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous tous là. Donc on dit l'importance de l'Église, c'est l'importance de la présence de nous tous. C'est l'importance de l'implication de nous tous. C'est l'importance de l'engagement de nous tous. C'est l'importance de la communion fraternelle entre nous tous. Ce qui nous permet de nous ouvrir sur l'extérieur et d'accueillir de nouvelles personnes pour les conduire. Donc, fonder la communauté. Ensuite, tu descends plus bas, s'il te plaît. Il y a fondé et il y a formé la communauté. Cette formation passe par l'enseignement, par les visites et les suivis, par l'envoi de collaborateurs. Okay. L'enseignement, c'est ce que nous faisons les dimanches. Prédication, président de culte. Quand quelqu'un a cette responsabilité de présider le culte, bah, il fait de l'enseignement. Parce que présider le culte, ce n'est pas juste faire passer les chansons les unes après les autres. C'est un cursus que le président de culte ou la présidente de culte fait. Il part d'un texte biblique et il vous conduit dans un ensemble de chants qui sont censés conduire notre adoration et ça nous édifie, n'est-ce pas? Et l'un des réformateurs qui s'appelle Luther, Martin Luther, a dit les cantiques qu'il a écrits lui-même ou qu'il a aidé à écrire, il dit parfois, le peuple, en tout cas à cette époque, n'était pas très instruit, on va dire, de façon dans la lecture. Donc, beaucoup n'avaient pas accès à la lecture. Et il dit, une façon de les enseigner, la doctrine, c'est chanter. Parce que quand les gens chantent, en fait, ils retiennent les chants. Regardez comment nous chantons, nous pouvons chanter. Il y a plein de cantiques que nous pouvons chanter sans même qu'on les projette, parce que nous les connaissons par cœur. Et dit, c'est ça qu'il faut faire aussi. Et c'est pour ça qu'on est un peu triste parce que, enfin, ça c'est une grosse parenthèse que je ferme bien vite. Certains chants aujourd'hui sont dansants, sont intéressants, mais ne sont pas profonds dans les paroles. Alors qu'à l'époque, quand on écrivait des chants, c'était pour donner la doctrine, pour que quand le chrétien le chante, il soit enseigné dans la parole de Dieu. Il soit enseigné dans la parole de Dieu parce qu'ils n'avaient pas accès à la lecture. Donc en chantant, il buvait la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Enseigner. Ensuite, visiter et suivi. Non, reste toujours celui-là deux. Visiter et suivi. C'est l'aspect de la communion fraternelle. L'aspect de la communion fraternelle. L'apôtre Paul était lié fraternellement à ses églises, notamment à Thessalonique. Ce n'était pas juste son travail d'apôtre qu'il faisait. Il faisait cette fraternité. On le voit quand il parle de sa réjouissance. Il dit à la fin du chapitre 2 de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 10, il dit « N'êtes-vous pas en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue, dont nous serons fiers. Hein? J'ai aimé communier avec vous. Vous êtes mes frères dans le Seigneur. Au 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, il dit « Quant à nous, frères aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi comme prémisse pour le salut dans la consécration de l'esprit et dans la foi et de la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre bonne nouvelle, pour que vous acquériez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez ferme et restez attachés. » À chaque fois, il articule la notion de frère, son lien avec les bien-aimés. Suivi et visite. Le Covid a mis une pause sur nos invitations réciproques et je crois que nous devons reprendre cette belle attitude chrétienne d'être hospitalier en commençant juste par nous inviter les uns les autres. Si une église, si dans une église locale on ne s'invite pas régulièrement, il y a un petit souci quand même. Parce que nous sommes invités à nous fréquenter, à nous connaître. Comment pouvons-nous nous connaître si nous laissons juste ce temps de culte? Avant encore, nous avons les agapés. Ces temps-ci, nous pouvons très peu les faire. Les agapes, c'était des bons moments de communion autour du repas dans l'église où nous prenions le temps tout l'après-midi de manger ensemble, de papoter, de faire connaissance, de discuter. Voilà plus d'un an que nous n'avons plus ces agapés-là. Mais nous avons la permission de nous inviter les uns chez les autres, au moins à 4 ou à 6, pour communier quelque chose. Et j'avoue que ça apporte toujours quelque chose de spécifique. À chaque fois que Caroline et moi, nous avons eu le privilège de recevoir un couple, un frère, une sœur de l'église chez nous, c'était un bonheur. La dernière fois que nous l'avons fait, c'est quand nous avons reçu Teddy Donc les Kishita et les Barthel chez nous, on a eu un moment incroyable. La première fois que nous l'avons fait, que nous sommes arrivés dans cette église, c'est qu'on a reçu tous les couples du conseil chez nous. C'était un moment vraiment formidable. On était vraiment contents de recevoir tous ces bien-aimés à la maison et de passer cet après-midi ensemble, de communier ensemble. Bien-aimés, la communion fraternelle, c'est aussi ça. Le temps des cellules de maison s'est aussi un peu mis en pause. Sinon, quand nous avions ces cellules, que ce soit à Créteil Préfecture chez Tina, ou avec Anise, avec Guylaine, avec Julie, avec les Réfortels, vous aviez ce temps de communion, n'est-ce pas? Vous avez tissé des relations, vous avez même fait un petit voyage intéressant ensemble, n'est-ce pas? Ça solidifie les choses. Quant aussi à la cellule de Bonneuil, hein, chez Iras, avec tous ceux qui y vont, avec Géraldine, avec Gertrude, Lisa, Josiane, Agnès, qui d'autre est de cette cellule-là? José, Arnaud, tu, Esther. Hein, c'était un temps aussi agréable, hein, où on était toujours. On avait toujours des petites surprises de José, hein, qui préparait toujours un cadeau pour les nouveaux venus. Hein. Il nous a offert à Caroline et moi une Bible. C'était incroyable, ce José. C'était des temps agréables aussi de communion. Et il y avait toujours une nouvelle personne qui était invitée dans cette cellule et qui venait visiter cette cellule. Donc, c'est des temps bénis, bien-aimés. C'est des temps bénis. Je veux, du haut de la chair ici, nous inviter à nouveau. Apprenons à nous visiter. Apprenons à nous inviter. C'est ça, la communion fraternelle. L'apôtre Paul avait ça à cœur pour les églises. Les affermir, visiter, communier ensemble. Les fois où j'ai été invité chez les bien-aimés, c'est toujours des fois où je suis vraiment reconnaissant de passer du temps, que ce soit moi individuellement en tant que pasteur ou que ce soit avec Caroline. C'est vraiment des temps où on est. Moi, je me dis toujours, mais qui je suis pour que ces frères m'invitent à manger chez eux? Et je suis toujours reconnaissant d'être là avec eux, manger, échanger, papoter de tout et de rien. On tisse des liens. Et ça nous permet de nous affermir les uns les autres. Et on se réalise qu'on n'est pas seul. J'ai ce témoignage d'un de mes collègues, pas de l'AUI, mais à l'extérieur de l'AUI. Il y avait une maman dans l'église, d'origine africaine, qui était dans cette église depuis bien des années, qui de temps en temps se faisait inviter, mais pas beaucoup de fois, mais qui avait du mal à inviter, parce qu'elle habitait dans une chambre de bonne. Donc elle était gênée. Et le pasteur, donc un de mes collègues, il ne savait pas qu'elle habitait dans une chambre de bonne, mais il avait constaté que cette sœur était là dans cette église depuis longtemps, et il a approché en lui disant, écoute, moi je m'invite chez toi. Dimanche prochain, je mange chez toi. Elle dit, oula, tu manges chez moi? Elle dit, mais oui, c'est vrai que ce n'est pas commode, mais je veux venir te visiter, je veux venir aller manger chez toi. Ça l'a touchée, cette maman. Parce que d'elle-même, elle n'aurait pas pu inviter quelqu'un parce qu'elle était dans une chambre de bonne. Et ça a donné notre aspect au ministère de ce collègue, et c'est lui qui en témoigne. Il dit, je me suis laissé conduire par l'esprit. C'est après coup qu'il a senti que c'est l'esprit qui l'avait conduit à faire ça. Parce que cette maman, ça l'a aidé à briser quelque chose qui n'était pas, qui n'était pas normal, mais sa situation sociale faisait que elle pensait qu'elle n'était pas en droit d'inviter quelqu'un chez elle. Et le fait que son pasteur se soit invité chez elle, ça a brisé quelque chose. Ça a brisé quelque chose. Ça a brisé quelque chose, bien-aimé. Peu importe nos conditions sociales. Vous savez, quand on parle des églises du premier siècle, la majorité des frères et de ceux qui constituaient ces églises, une bonne partie étaient des esclaves. Donc des gens qui avaient des conditions sociales très, 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 très difficiles. Et pourtant, l'apôtre Paul leur parle de ça. Okay? Donc que Dieu nous aide. Visite et suivi. Et puis collaborateurs, ça c'est tous ceux qui sont invités à se lever pour servir dans l'église. J'en ai parlé, comme Timothée. Okay? À l'école du dimanche, dans le groupe de jeunes, parmi les femmes, parmi les hommes, parmi les priados. Là, on a un gros besoin dans le groupe de priados. On a besoin d'animateurs pour nous aider à enseigner nos priados. Okay? Parce que l'équipe s'est restreinte, n'est-ce pas? Ensuite, et pour terminer peut-être, le 3, affermir la communauté. Beaucoup suivaient Paul de près ou de loin en essayant de monter les églises contre lui. Hein? Donc, il avait beaucoup d'ennemis, malheureusement. Et l'église était en proie à des difficultés. Il devait donc affermir son enseignement aux Thessaloniciens en le clarifiant et en l'accompagnant par de nombreuses lettres qu'il a écrites, de nombreuses exhortations. Et cette étape semblait inévitable pour toutes les églises, hein, comme si c'était une partie essentielle et nécessaire du processus de maturation, n'est-ce pas? De nouveau, Paul a suivi le même modèle pour tenter de faire en sorte que les églises tiennent fermement à l'enseignement des apôtres. Il les mettait au défi de maintenir son enseignement du reste qu'il a reçu du Seigneur, parce qu'il était un apôtre. Il envoyait des lettres pour clarifier son enseignement, pour encourager à tenir ferme, comme nous l'avons vu, 2 Thessaloniciens 2, 13 à 17, en envoyant des hommes de son équipe avec des lettres ou les autorisations à s'occuper de ceux qui ne s'y conformaient pas. Il a fait cela avec Timothée, il a fait cela avec Tite, n'est-ce pas? En rendant visite lui-même lorsque c'était possible. Combien de fois l'apôtre Paul n'est pas retourné dans des églises qu'il avait fondées? Combien de fois il n'est pas retourné pour communier simplement avec eux? On se souvient que, par exemple, à l'église d'Éphèse, il est resté 3 ans avec cette église, 3 ans. En Actes chapitre 20, il dit aux anciens d'Éphèse qui sont venus le retrouver à Milet, il dit, pendant 3 ans, je reste avec vous pour vous former. Il dit, maintenant vous êtes prêts, vous. Et c'est à vous de prendre soin du troupeau que Dieu vous a confié à Éphèse. Faites-le avec soin. Tu peux arrêter le partage. Voilà, bien aimé, pour ce matin. Nous voulons laisser Dieu nous encourager à fonder cette communauté que nous sommes, à former cette communauté que nous sommes, à affermir cette communauté que nous sommes, afin qu'il y ait aussi encore des conversions. Parce que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas un club fermé. Nous sommes là pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, pour que d'autres se tournent à Dieu, n'est-ce pas? Et nous former, nous fonder et nous affermir, c'est donner l'occasion à Dieu d'attirer d'autres personnes à lui, de sauver des vies, de sauver des âmes pour le glorifier. Voilà l'encouragement que je voulais nous apporter ce matin. Puisse le Seigneur être notre encouragement bien-aimé. Je terminerai en lisant le premier texte que nous avons tous vu ensemble. Non, je lirai le dernier. 2 Thessaloniciens 2, 13 à 17. Quant à nous, frères aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi comme prémisse pour le salut dans la consécration de l'esprit et dans la foi de la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre bonne nouvelle pour que vous acquériez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez ferme, restez attachés aux traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce un encouragement éternel et une bonne espérance, vous encourage et vous affermisse en toute œuvre bonne comme en toute bonne parole. Qu'il vous encourage, qu'il vous affermisse en toute œuvre bonne comme en toute bonne parole. Amen. Recording stopped.